Les zones d'ombre de l'histoire.
Le 7 octobre dernier, Israël a connu une attaque sans précédent. Ce sont d'abord des centaines de roquettes qui sont tirées en direction de l'État hébreu. Puis simultanément, des groupes de combattants palestiniens pénètrent par la frontière terrestre, mais aussi par la mer, sur le territoire israélien. Dans les villages bordant la frontière, les tueries commencent. Un festival de musique est aussi pris pour cible. Le bilan est terrible. Plus de 1400 morts et 240 personnes prises en otage. Derrière cette offensive sans précédent, on trouve plusieurs organisations palestiniennes, telles que le Djihad islamique palestinien, mais aussi et surtout le Hamas. La réplique est comme d'habitude implacable, et Israël déclenche l'opération Épée de fer, qui a jusqu'à présent fait près de 12 000 morts, plus de 27 000 blessés, parmi lesquels une majorité de civils, 2 700 disparus, et occasionné le déplacement de plus d'1 500 000 Palestiniens. La communauté internationale condamne, et si quelques voix osent timidement expliquer que la seule solution à l'arrêt de ce cycle infernal de violence serait la création d'un État palestinien, la majeure partie du débat porte sur le Hamas. Et ceux qui refusent de le désigner comme un mouvement terroriste sont critiqués, voire accusés d'antisémitisme. Encore une fois, la communauté internationale n'est donc capable de prendre aucune initiative concrète. Et cette focalisation sur une sémantique politique sonne surtout comme un aveu d'impuissance. Mais quelle est réellement l'histoire du Hamas? Comment a-t-il été créé? À son origine, on trouve une organisation aux missions sociales et religieuses, appelée la Mujama al-Islam. Organisation qui, jusqu'au mi-temps des années 80, a bénéficié d'une tolérance plus que bienveillante de la part d'Israël. Pourtant, plusieurs responsables israéliens avaient alerté sur le caractère extrémiste de cette structure. Mais dans les services de renseignement, on considérait la Mujama comme le meilleur antidote contre l'OLP, le mouvement politique à l'époque dirigé par Yasser Arafat. De toute évidence, Israël a fait preuve pendant des années d'un cynisme et même d'un machiavélisme politique sidérant. Lorsque la Mujama décide de s'engager dans la lutte armée, certains dirigeants israéliens ne réagissent toujours pas. Pendant combien de temps le Hamas a-t-il servi les projets politiques d'Israël ? Pour venir obscurcir un peu plus le flou qui caractérise peut-être encore les relations entre le Hamas et l'État hébreu, il y a eu la publication dans un grand quotidien israélien d'un document datant de décembre 2016 et rédigé par le ministre de la Défense de l'époque. Ce document décrit assez précisément le scénario de l'attaque du 7 octobre 2023. Selon son rédacteur, Avigdor Lieberman, les responsables de l'armée l'aurait balayé d'un revers de main. La suite, dans un instant.
وصحت قمم الزهر يا جسرا خشبيا فرح الماء وبك العطر يجن أخشابك أفيا تحت الخطو تئن وبصمت وصفاء ينطلق الأردن يزرع في الأوداء موسمه القدسي يا جسرا خشبيا يسبح فوق النهر ضحك الفجر وحي وصحت قمم الزهر يا جسرا خشبيا خشبيا خشبيا.
Les zones d'ombre de l'histoire.
C'est dans la première moitié du XXe siècle que naît l'embryon de la résistance palestinienne. En mars 1928, est créée la confrérie des frères musulmans en Égypte. L'un de ses buts est de redonner un pouvoir aux populations arabes qui vivent sous la domination britannique. Dans la seconde moitié des années 30, une première révolte contre l'occupant anglais se produit en Palestine. Et celle-ci est déjà inspirée par le djihad. À l'époque, ces mouvements de résistance sont supervisés depuis l'Égypte ou la Jordanie. Mais dès 1947, les frères musulmans inaugurent une branche à Gaza. En 1948, éclate la première guerre israélo-arabe. L'Égypte tente alors d'intégrer à son armée les combattants affiliés aux frères musulmans. Mais ceux-ci refusent. Ils ne veulent pas être inféodés à l'armée égyptienne. Pour eux, le combat n'est pas seulement arabe, il est aussi déjà spécifiquement palestinien. Le Caire réplique en interdisant la confrérie. Au terme de cette première guerre, la Cisjordanie passe sous administration jordanienne et la bande de Gaza sous contrôle de l'Égypte. Cette situation va pousser des milliers de réfugiés palestiniens à gagner ce minuscule territoire de seulement 360 km². Jusqu'alors essentiellement couvert par des terres agricoles, la bande de Gaza va connaître le début d'une urbanisation qui ne cessera d'augmenter. Toujours interdits, les frères musulmans créent alors une première association à but religieux et social. Il s'agit de diffuser le Coran, mais aussi de proposer des activités culturelles ou du soutien aux études. Toutefois, discrètement, certains membres s'entraînent déjà au maniement des armes et opèrent des infiltrations au-delà de la frontière avec Israël. Parallèlement, de nombreux étudiants palestiniens qui font leurs études en Égypte vont bientôt rejoindre le mouvement des étudiants palestiniens dirigé par un certain Yasser Arafat. En 1952, revenus en grâce, les frères musulmans se voient accorder la gestion administrative de la bande de Gaza par l'Égypte. Ils sont remerciés de leur participation au coup d'État qui vit chuter la monarchie. Toutefois, le gouvernement égyptien, ne voulant pas d'une confrontation avec Israël, demande à la confrérie de cesser ses infiltrations à la frontière. En 1954, Gamal Abdel Nasser est victime d'un attentat. Pensant que les frères musulmans en sont les auteurs, il engage une répression contre la confrérie. En février 1955, le commandant militaire de la région sud d'Israël, Ariel Sharon, déclenche un très violent raid aérien sur la bande de Gaza. Les victimes sont nombreuses et les frères musulmans réagissent en déclenchant ce que l'on pourrait considérer comme une première intifada. En octobre 1956, Israël attaque l'Égypte et reprend la bande de Gaza, qui reviendra toutefois sous administration égyptienne quelques mois plus tard. Au Caire, on tente d'empêcher les militants les plus déterminés à regagner le minuscule territoire. Cela n'empêche pourtant pas la création en 1959 du Fatah, mouvement de libération du peuple palestinien. Deux hommes en sont à l'origine, dont Yasser Arafat. Puis en 1964, c'est la création de l'Organisation de libération de la Palestine. Mais les frères musulmans restent à distance de cette émulation politique tout en poursuivant leurs activités sociales et religieuses. En juin 1967, a lieu la guerre des six jours qui oppose Israël à ses voisins égyptiens, syriens et jordaniens. Au terme de cette guerre éclair, Israël envahit le plateau du Golan, la bande de Gaza, la Cisjordanie et le Sinaï. C'est la naissance des territoires occupés. Tous les mouvements palestiniens sont unifiés et appellent à la lutte contre l'État juif. Pourtant, un jeune prêcheur ne s'associe pas à ces appels patriotiques. Il s'appelle Ahmed Yassine. Il est né près d'Ashkelon et va faire ses études en Égypte. À la fin des années 50, il est enseignant à Gaza. Sans avoir suivi le moindre cursus religieux, il va pourtant devenir un prêcheur charismatique. Au lendemain de la guerre des six jours, il expliquera que si les Arabes ont perdu, c'est à cause de l'éloignement de la foi. Les Juifs, dit-il, ont été poussés par leur foi dans cette guerre. Avant d'envisager une confrontation avec eux, il faut restaurer la relation avec l'islam. Au terme de la guerre des six jours, il y a donc un front uni de toutes les organisations palestiniennes, mais Ahmed Yassine reste à distance, considérant qu'une confrontation avec Israël est perdue d'avance. De fait, l'État hébreu ne s'intéresse pas à lui et concentre sa lutte sur les mouvements nationalistes. Et c'est sous la direction du général Ariel Sharon que l'armée engage une lutte contre ces organisations. Au début des années 70, Tzahal opère de régulières incursions dans les territoires occupés. Cela se solde par l'expulsion de plus d'un millier de Palestiniens, l'emprisonnement de plus de 3000 personnes et la mort de près de 200 fédahines. La confrérie des frères musulmans ne réagit pas. Alors, l'OLP rédige un document dans lequel il est affirmé que le combat du mouvement est strictement politique. Ici s'opère une scission qui sera déterminante. En 1973, sous l'impulsion d'Ahmed Yassine, les frères musulmans de Gaza créent la Moujama à l'islam. L'organisation, qui dispose d'un centre officiel, a deux buts. Tout d'abord, elle poursuit les actions sociales et éducatives auprès de la population. Mais elle engage aussi une lutte bien réelle contre tous les autres mouvements palestiniens. Dans son viseur sont confondus les mouvements simplement nationalistes et ceux d'obédience marxiste. Non seulement Israël approuve la création de la Moujama, mais elle protège également ses intérêts contre les attaques en représailles des autres mouvements palestiniens. Lorsque la Moujama inaugure la grande mosquée de Gaza, qui est aussi son centre principal, l'État hébreu est officiellement représenté par le gouverneur des territoires occupés. Ahmed Yassine recevra d'ailleurs régulièrement la visite des gouverneurs de la région à cette époque. En Israël, on pense que la Moujama est le meilleur rempart contre les poussées nationalistes, car le gouvernement n'a nullement l'intention de faire la moindre concession au peuple palestinien. La visite du président égyptien Anwar al-Sadat en Israël à la fin de l'année 1978 est condamnée par toutes les organisations palestiniennes, sauf la Moujama al-Islam, qui est autorisée à ouvrir une université islamique à Gaza. Au début de l'année 1980, un nouveau gouverneur des territoires occupés prend ses fonctions. Il s'appelle Itzhak Segev et il alerte le gouvernement hébreu sur l'implantation massive de la Moujama qui, selon lui, présente toutes les caractéristiques d'un mouvement potentiellement dangereux. Le général Segev a beau appuyer son propos en expliquant que le contexte international, la prise d'otages à l'ambassade américaine de Téhéran ou l'émergence des Moudjahidines en Afghanistan pourraient inspirer la Moujama en Palestine. Il n'est pas écouté. Pour les stratèges politiques israéliens, l'ennemi reste les organisations politiques telles que l'OLP. Incontestablement, Israël voit d'un très bon œil la tension qui monte toujours entre les mouvements nationalistes et la Moujama. Cette dernière intensifie sa lutte contre tous ceux qui, selon elle, dérivent de la religion et lancent le djihad. À cette occasion, l'organisation est soutenue financièrement et peut acquérir des armes. Mais le cheikh Yassine dirige toujours ses combattants contre les autres mouvements palestiniens. Avner Cohen, chargé des questions religieuses dans le gouvernement israélien, produit alors un rapport alarmant dans lequel il décrit les approvisionnements en armes dont bénéficie la Moujama. Une perquisition est alors effectuée dans différents lieux de l'organisation et au domicile du cheikh Yassine. Des armes sont effectivement retrouvées. Le dirigeant de la Moujama est jugé et condamné à 13 ans de prison. Mais il est libéré un an plus tard dans le cadre d'un échange de prisonniers. En 1987, un rapport commandé par l'administration israélienne sur la bande de Gaza décrit une situation catastrophique. Il y a une surpopulation qui vit dans des conditions sanitaires déplorables et les administrations du territoire sont littéralement à l'abandon. Au printemps 1987, se produisent plusieurs confrontations meurtrières qui vont conduire tout d'abord à un appel à la grève générale lancé par le djihad islamique, puis les attentats et représailles poussent les Palestiniens à déclencher la première intifada. Les frères musulmans sont très critiqués pour ne pas avoir pris position. Ahmed Yassine réunit les dirigeants de l'organisation le 9 décembre. Tout en sachant que son attentisme risque de marginaliser son mouvement, il est aussi conscient du rapport de force entre Israël et les Palestiniens. Un tract est alors distribué dans les rues de Gaza. Il dénonce l'occupation israélienne, appelle à la résistance et à la lutte. Il est signé d'un mouvement jusqu'alors inconnu, le Hamas, mouvement islamique de résistance. Cette nouvelle organisation, qui naît officiellement le 14 décembre 1987, a été créée par les responsables de la Moujama après la réunion du 9 décembre.
Radio Campus Paris, les zones d'ombre de l'histoire.
Le 18 août 1988, le Hamas publie une charte qui a valeur de manifeste. Le document appelle à la création par tous les moyens d'un État palestinien islamique sur les frontières de la Palestine mandataire. Il exclut donc une cohabitation avec un autre État. Le Hamas se présente comme le garant d'un islam restauré, venu contrer l'éloignement des fondements religieux dont sont victimes les musulmans. L'antisémitisme est évident. Le combat contre le sionisme se généralise à un combat contre les juifs. Le document prend aussi des accents complotistes en dénonçant le pouvoir des juifs dans les médias et sur le plan géopolitique, pouvoir obtenu grâce à l'argent. La franc-maçonnerie, les services de renseignement, les médias, tout est assimilé dans un complot mondial sioniste. Pendant que l'OLP poursuit une trajectoire politique, le Hamas s'engage dans la lutte armée. En 1988, le cheikh Yassine est arrêté et jugé en Israël. Il est condamné à la prison à vie. Mais c'est seulement en automne 1989 que le Hamas est enfin considéré par Israël comme une organisation terroriste. Les années 90 voient se profiler de réels espoirs de paix avec les accords d'Oslo qui prévoient dans un premier temps un retrait partiel de l'armée israélienne des territoires occupés, puis un transfert progressif de la gouvernance vers l'autorité palestinienne. Toutefois, le Hamas rejette ces négociations de paix et commet son premier attentat suicide le 16 mai 1993. Le 25 février 1994, un extrémiste juif tue 29 musulmans et en blesse plus d'une centaine d'autres lors de la prière du vendredi dans la ville d'Hébron. Cet attentat, s'il ne va pas fragiliser les négociations entre Israéliens et Palestiniens, va en revanche provoquer le début d'une véritable guerre civile entre l'OLP et le Hamas. Le mouvement va perpétrer plusieurs attaques suicides en Israël. L'autorité palestinienne procède à des arrestations au sein du Hamas et la tension monte. En novembre de la même année, une manifestation en soutien au mouvement du Cheikh Yassine est violemment réprimée par la police palestinienne qui tire sur la foule et tue 14 militants du Hamas. En novembre 1995, le principal artisan des accords d'Oslo, le premier ministre israélien Yitzhak Rabin, est assassiné par un extrémiste juif. En janvier 1996, Yasser Arafat est élu président de l'autorité palestinienne. Depuis sa cellule, le Cheikh Yassine tente de contenir ses combattants. Mais l'assassinat par le Mossad de l'artificier du Hamas relance la violence. Benjamin Netanyahou accède au pouvoir. Il ne veut pas d'un État palestinien. Il va alors inaugurer une stratégie particulièrement machiavélique. Rendre l'autorité palestinienne responsable des attentats du Hamas, tout en poussant ce mouvement à poursuivre la lutte armée. En effet, des responsables du mouvement extrémiste sont tués par le Mossad, le poussant bien entendu à des représailles, et c'est l'autorité palestinienne qui est accusée de laxisme. Yasser Arafat ordonne l'arrestation de militants et le Hamas se retourne alors contre l'autorité palestinienne. Le Cheikh Yassine retrouve la liberté à l'automne 1997 à la suite d'une aventure rocambolesque. Les services de renseignements israéliens ont planifié l'assassinat par empoisonnement de Khaled Meshal, considéré comme le numéro 2 du Hamas, qui réside en Jordanie. Mais les agents du Mossad sont interceptés sur le fait et le roi Hussein de Jordanie menace de les faire pendre et de rompre l'accord de paix avec Israël. Sous la pression des États-Unis, Israël est donc contraint de relâcher non seulement le Cheikh Yassine, mais aussi des militants du Hamas et de l'OLP. En 1998, le président américain Bill Clinton tente de relancer des négociations. Son interlocuteur, le premier ministre Ehud Barak, sera jusqu'à aujourd'hui le dernier dirigeant israélien sur lequel on pouvait fonder l'espoir d'un accord de paix. Le 29 septembre 2000, en pleine campagne électorale, Ariel Sharon se rend sur l'esplanade des mosquées. Ce geste est bien entendu ressenti comme une provocation, et les Palestiniens s'emparent de la rue. C'est le début de la deuxième intifada. Ariel Sharon, devenu Premier ministre, va s'employer, soutenu par George W. Bush, à rendre l'autorité palestinienne responsable des attentats du Hamas. La stratégie israélienne est claire, il s'agit de pousser à la surenchère dans les deux camps. En 2004, le Cheikh Yassine est tué dans un raid israélien sur la bande de Gaza. En 2005, Ariel Sharon décide le retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza. Mais le territoire est une ruine. Une écrasante majorité des habitants vit de l'aide humanitaire. Il n'y a plus d'administration et les conditions sanitaires sont déplorables. En 2005, le Hamas décide de présenter des candidats aux élections municipales. Pour la première fois, et sous l'influence de la nouvelle direction, le mouvement tente de s'inscrire dans la sphère politique. C'est un succès. Dans la bande de Gaza, l'organisation est largement plébiscitée. En 2006, c'est un nouveau succès électoral aux élections législatives. Mais la communauté internationale refuse de reconnaître les résultats, se basant sur le fait que le Hamas prône toujours la destruction de l'État d'Israël. Sur ce point, la position de l'organisation est ambiguë. Ses dirigeants affirmant que si Israël en revient aux frontières de 1967, une trêve serait possible. Cette affirmation ne contient pas en effet la reconnaissance définitive de l'État d'Israël, mais prend acte de son existence à l'intérieur de certaines frontières. La coexistence gouvernementale entre le Fatah et le Hamas devient très vite impossible et les affrontements entre les deux organisations sont très meurtriers. Le Fatah est littéralement évincé de la bande de Gaza. La Palestine devient alors un territoire bicéphale. La Cisjordanie est une entité fantôme ingouvernable car truffée de colonies israéliennes. Et la bande de Gaza, qui subit un blocus total de la part de l'État hébreu, est une prison à ciel ouvert livrée aux mains du Hamas. Les tirs de roquettes et les attentats reprennent plus ou moins régulièrement et Israël réplique par de violentes opérations militaires. En décembre 2008, l'opération Plomb durci fera 1400 morts et près de 3000 blessés dans la bande de Gaza. En avril 2014, pour tenter de contenir le Hamas et essayer de réunifier la Palestine, le Fatah, parti majoritaire en Cisjordanie, tente une réconciliation avec le mouvement de Khaled Meshal. Israël accuse aussitôt l'autorité palestinienne de complicité avec le terrorisme. L'enlèvement de 3 jeunes Israéliens va faire voler en éclats l'unité des mouvements palestiniens et Tsahal va alors engager une guerre contre le Hamas. Le président de l'autorité palestinienne est quant à lui accusé par le Hamas de complicité avec l'État hébreu. En octobre 2017, sous l'égide d'un nouveau dirigeant, Ismaël Haniyeh, le Hamas signe un accord avec l'autorité palestinienne qui prévoit que cette dernière reprenne le contrôle de la bande de Gaza. Mais rien ne se concrétisera vraiment. Un peu plus tôt cette même année, un amendement à la charte originelle a été publié. Il reconnaît l'existence d'un État palestinien à l'intérieur des frontières de 1967 avec pour capitale Jérusalem. Le document précise aussi que le Hamas ne combat pas les Juifs mais les sionistes. Il s'agit pour l'organisation de tenter de gommer les nombreuses références antisémites de la charte d'origine. Si les médias se concentrent sur la guerre entre le Hamas et Israël, la population palestinienne est aussi victime de l'organisation qui s'en prend régulièrement à ceux qu'elle considère comme collaborateurs de l'État juif ou simplement comme ennemis de sa cause. Le mouvement a aussi mis en place un programme d'endoctrinement destiné aux enfants qui peuvent recevoir une formation militaire dès l'âge de 10 ans. Des enfants sont également utilisés dans la construction de tunnels permettant les infiltrations au-delà de la frontière. Les attentats et enlèvements du 7 octobre ont-ils marqué un tournant dans les relations entre le Hamas et Israël? Rien n'est moins sûr, car si l'ampleur des attentats et de la réplique militaire sont sans précédent, ils s'inscrivent toujours dans la même logique stratégique. L'ancien Premier ministre français, Dominique de Villepin, observe que la réponse israélienne se situe dans le registre de la vengeance et non dans celui de la justice. C'est en effet toute la population de Gaza qui est victime des bombardements et les déplacements de population sont d'une ampleur sans précédent. Si la lutte engagée par Israël vise le Hamas, son résultat immédiat s'apparente bien plus à un nettoyage ethnique. Cette offensive du Hamas rend encore plus improbable la reconnaissance des droits du peuple palestinien à disposer de leurs terres, droits qui ont pourtant fait l'objet d'une résolution de l'ONU en 1948. Je vous retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode des Zones d'ombre de l'histoire et d'ici là, je vous donne rendez-vous sur la page de l'émission Les Zones d'ombre de l'histoire sur le site de Radio Campus Paris pour écouter tous nos anciens podcasts.